trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est avec nous, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Mabrouk Chetouane nous accompagne également. Bonsoir Mabrouk.
Bonsoir.
Vous êtes le responsable de la stratégie de marché global chez Natixis IM et Alexandre Baradez également à nos côtés. Bonsoir Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Je veux bien qu'on commence avec l'Europe et peut-être la problématique à ce stade pour la Banque Centrale Européenne. Nathalie, la prochaine réunion aura lieu dans un peu plus de deux semaines maintenant, le 12 décembre prochain. Et les positions se confirment. Interview d'Isabelle Schnabel aujourd'hui, qui reste ferme, droit dans ses bottes. Est-ce que c'est normal à ce stade de voir la membre allemande du directoire défendre cette position de prudence? Attention à ne pas aller trop loin, à ne pas aller trop vite. Nous sommes déjà proches du taux neutre, estime Isabelle Schnabel. Je sais que c'est un débat infini chez les économistes et les banquiers centraux. Position allemande de Schnabel qui n'est pas surprenante. Moi, ce qui me marque, c'est quand même la divergence qui semble s'accroître au sein du Conseil entre les gouverneurs et les membres du directoire. Parce que, à l'opposé d'Isabelle Schnabel, on a quand même des discours, alors alarmistes, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas des discours qui commencent à demander une fonction de réaction beaucoup plus agressive de la part de la Banque Centrale Européenne.
Oui, est-ce que c'est surprenant de la part de Schnabel? Sans doute pas. Est-ce qu'elle exagère en disant qu'on est proche du taux neutre? Sans doute aussi, malgré tout. Mais alors, bon, il y a cette interview de Bloomberg, on pourra y revenir, mais vers le milieu du mois de novembre, pardon, ouais. elle a fait un discours qui était plus intéressant sur l'incertitude, la politique monétaire et l'incertitude. Et finalement, ses conclusions, c'est que les banques centrales ne peuvent plus s'appuyer sur des relations macroéconomiques stables, ce qui est embêtant quand on alimente des modèles. Et ces conclusions sont intéressantes et ça peut-être tracer ce que va être ou ce que voudrait être la fonction de réaction de la politique monétaire. Ce qu'elle nous dit, c'est les taux directeurs, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire de la politique monétaire parce que c'est rapide et on peut se retourner rapidement. Les achats d'actifs, c'est utile en cas de crise. En filigrane, le quantitative easing, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça et c'était peut-être pas si efficace que ça sur les données macroéconomiques. Et en plus, je traduis le langage de banque centrale, c'est galère quand on veut en sortir.
Oui, voilà.
On n'est pas encore complètement sorti. Voilà. D'ailleurs. Oui.
Donc, elle dit, alors là, elle le dit quasiment texto, il va. Dans le futur, si on a besoin de recourir au quantitative easing, il faudra réfléchir de voir si ça vaut vraiment la peine. Et quelque chose de très très intéressant et qui va probablement nous occuper pendant les prochains mois, la forward guidance, c'est-à-dire les indications qu'on peut donner sur les décisions futures de politique monétaire, c'est bien, mais ça risque. Il ne faut pas se sentir bloqué dans une forward guidance et ça nous ramène à la notion d'incertitude.
Au premier point.
Quand la macroéconomie est très volatile, dire dans deux mois je baisse les taux, ça peut être gênant si on se sent les mains liées.
Avec une position comme celle d'Isabelle Schnabel, quand bien même c'est pas une surprise, mais Isabelle Schnabel est un membre important, elle fait partie des membres qui comptent. Qu'est-ce qu'on peut attendre du discours de la BCE et du consensus dont Christine Lagarde a la charge le 12 décembre prochain? Il faudra pas en attendre beaucoup à nouveau, c'est ça Nathalie?
Alors ça va être sans doute compliqué comme d'habitude pour Christine Lagarde. Pourquoi? Parce qu'en décembre, on va avoir le nouveau jeu de prévision économique de la Banque Centrale Européenne ou des banques centrales nationales. D'ailleurs, je ne sais plus trop où on en est
ça change une fois sur deux.
Dans ces prévisions, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vraisemblablement, pas énormément de changements, puisque là encore, on en revient au modèle macro. Et ce que les modèles macro d'à peu près tout le monde nous disent en ce moment, c'est qu'on va avoir une croissance qui devrait se tenir. On peut être très sceptique là-dessus, mais le modèle, quand on lui fait une augmentation mécanique du pouvoir d'achat, eh bien, ça fait que la croissance peut se tenir. Et normalement, si on envisage un léger ralentissement des hausses de salaire, ça fait que l'inflation baisse. Et justement, précisément, Isabelle Schnabel, dans son interview à Bloomberg, elle est revenue sur quelque chose qu'elle n'avait pas dit depuis deux ou trois fois, c'est-à-dire l'inflation dans les services est trop élevée et il faut la voir ralentir. C'est pas on attend à ce qu'elle ralentisse, c'est il va falloir la voir ralentir. Et c'est ça le hiatus au sein du comité, les gens qui suivent les projections et ceux qui veulent voir avant de payer en quelque sorte.
Bon. comment est-ce que les choses peuvent évoluer, parce que c'est vrai que la pression est très forte, à commencer par la pression des marchés. Dans l'interview qu'elle donne aujourd'hui à Bloomberg, Isabelle Schnabel, elle est forcée de le recaler, puisqu'on lui signale quand même que le marché voit un taux de dépôt à 1,75 peut-être fin 2025, et elle est obligée de concevoir effectivement que les marchés ont une lecture assez différente de celle qu'elle fait aujourd'hui. Comment est-ce que tout ça se rassemble, notamment à l'occasion de la réunion du 12 décembre prochain pour la BCE, Mabrouk?
C'est quand même la même personne qui indique effectivement que les données, les indicateurs d'activité, finalement, on peut leur donner un crédit relativement faible, en citant justement les PMI, les indices PMI, pardon, qu'on a en Europe, en disant finalement, ça reflète un ralentissement de l'activité manufacturière, qui est assez faible, et tout le monde est inquiété finalement de voir que la partie service qui tenait jusqu'à présent, elle aussi est passée un peu en dessous du territoire, de ce seuil de 50. Bon, j'ai trouvé que sa réponse était un peu hallucinante concernant justement ces données. En fait, c'est la seule donnée dont on dispose pour essayer un peu de voir où se situe le cycle, on va dire, en quasi temps réel. Donc, ça ne va pas en Europe. Clairement, si on se fie effectivement à cet indicateur, ça ne va pas du tout.
Sur l'activité.
Et sur l'activité, ça ne va pas. Et à un moment donné, et on va, la Fed a exhumé un papier de Ben Bernanke, 95, qui indique une chose mais absolument essentielle pour comprendre finalement un peu ce qui se passe en Europe, c'est que quand on a eu de la restriction monétaire, le secteur qui est effectivement le plus touché, le secteur manufacturier, puisque intensif en facteur capital. Le secteur service, lui, ne ressent pas trop finalement cette restriction parce qu'il est intensif en facteur travail. Le facteur capital, étant donné, lui, qu'il est dépendant, finalement, des taux d'intérêt, on comprend pourquoi, finalement, on a, justement, cette aggravation, finalement, du secteur manufacturier, qui n'est pas liée qu'à la politique monétaire. Il y a plusieurs facteurs, mais oui, la politique monétaire en fait partie. Et donc, à mon sens, il est urgent, urgentissime même, de desserrer, en quelque sorte, la contrainte monétaire que subit la zone euro. Aujourd'hui, à mon sens, la politique monétaire et le niveau des taux d'intérêt, quand bien même, effectivement, on regarde le taux d'intérêt réel qui n'est qu'à 0,4%, mais qui ne reflète pas ce qu'on appelle la posture monétaire, mais qui reflète une anticipation, à mon sens, de croissance future, donc ça veut dire très très faible.
Ouais.
À un moment donné, il va falloir se dire, très bien, on est largement au-dessus du taux neutre, quand bien même, effectivement, Madame Schnabel, effectivement, prétend le contraire, je pense qu'effectivement, il va falloir mettre un peu plus de baisse de taux sur la table.
Qu'est-ce qui va la faire changer d'avis? C'est-à-dire, si c'est si Schnabel est un verrou, j'allais dire, au sein du board, quel type de données, quel type d'informations va faire que le consensus pourra être trouvé, au moins peut-être, je sais pas, pour baliser le chemin un peu plus, pour peut-être signaler que le taux neutre est un objectif déjà à atteindre, etc., etc.
Je pense que c'est même une erreur de raisonner sur ce fameux taux neutre, parce qu'on sait pas où est-ce qu'il est en fait en réalité. Donc partir sur quelque chose effectivement de peu fiable, en fait de pas mesurable directement, et pour moi assez misleading. Le point fondamental, c'est de dire avec la baisse de l'inflation, un peu plus finalement de pouvoir d'achat pour les ménages et une consommation, ça a été souligné dans son discours,
oui, oui,
qui a tenu. Mais là aussi, il y a une contradiction en quelque sorte. On a quand même une politique budgétaire dans la quasi-totalité des pays européens qui va être restrictive. Et donc, on sait bien ce qui se passe dans les pays où les taux d'épargne tutoient des records, en France, en Allemagne. Quand vous introduisez de la restriction budgétaire, il y a un effet ricardien qui se produit, on épargne plus, on consomme moins. Donc globalement, son raisonnement macro, à mon sens, et c'est la première fois que finalement je suis assez vent debout contre les déclarations de la BCE, ce n'est pas le moment. Dans un contexte où on le voit bien, le pragmatisme américain va l'emporter sur, encore une fois, le dogmatisme européen. Il faut arrêter d'être dogmatique, il faut laisser filer un peu l'inflation, ça fera pas de mal aux pays endettés.
Ça, c'est de l'ordre du souhait, Mabrouk.
Non, mais
le 12 décembre, c'est pas ce qui va se passer.
Non, mais le 12 décembre, Christine Lagarde va annoncer sa baisse de taux de 25 points de base, il n'y a pas de souci avec ça. Nathalie le soulignait, règle versus discrétion. C'est un peu ça aussi la question, c'est qu'on ne veut pas se lier les mains effectivement avec une forward guidance qui serait trop forte et qui nous contraindrait finalement à annoncer davantage de baisses de taux qui ne pourraient peut-être pas avoir lieu ou finalement qui entraînerait la BCE sur des sentiers finalement un peu dangereux. Mais néanmoins, à un moment donné, Christine Lagarde va devoir dire, écoutez, au gré des évolutions macro, au gré des risques qui pourraient frapper effectivement la zone euro, nous allons effectivement devoir agir et cette action consistera à mon sens à baisser les taux.
Moi, j'ai été frappé, Alexandre, là, vendredi, sur la publication des enquêtes PMI. Alors, on a débattu ici ad nauseam du manque de fiabilité de ces enquêtes et de la décorrélation qu'il y avait entre ces enquêtes et la réalité qu'on pouvait mesurer sur des données un peu plus dures. Néanmoins, le flash crash qu'on a eu sur l'euro, sur la publication de ces PMI, pour moi, a résonné quand même comme un signal d'alerte. Quoi.
Oui, parce que
tout le monde l'a vu.
Oui. L'euro était déjà sous pression depuis, même déjà avant l'élection américaine, c'est le Trump trade, donc l'euro déjà sous pression. Ouais. Puis l'élection qui confirme Trump, à nouveau coup de pression. Et puis les PMI qui ont enfoncé le clou, on se dit, bah, si effectivement l'activité est déjà intrinsèque et moyenne, et qu'en plus Trump rajoute une couche de taxe là-dessus, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On est à 8%, 9% de baisse, au moins 8% depuis le pic à 1,12.
Septembre, ouais, c'est ça.
Voilà. Ouais. Après, la question de l'équipe, parce que ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on regarde finalement comme données, c'est vrai que les enquêtes sont des enquêtes. Et de quelle manière l'élection américaine a influencé cette enquête-là? Est-ce que c'est des réalités dans les carnets de commandes, dans les intentions d'embauche, les fixations des prix ou autres qui ressortent là-dedans? Auquel cas, effectivement, c'est plutôt très inquiétant. Ou est-ce que c'est une anticipation peut-être exagéré, de ce que sera l'économie européenne sous le joug et la pression de Trump, et du coup, qui serait plus pessimiste que l'économie réelle à ce moment-là, parce que l'autre côté du raisonnement de Isabelle Schnabel, c'est effectivement cette inflation, on a beaucoup moins parlé de ça, mais l'inflation sous-jacente en zone euro, elle est toujours à 2,7. Juste avant les chiffres PCE cet après-midi aux États-Unis, c'était le même chiffre d'inflation corps qu'on a aux États-Unis. Sauf que, chez nous, la croissance n'est pas la même. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, il y a une demande qui est quand même très forte. Et donc, c'est probablement ça aussi le problème. Dans quelle mesure l'inflation peut être un problème politique? Est-ce qu'à 2,7 d'inflation sous-jacente, on a vu une coalition qui chancelle, qui faiblit en Allemagne, en France, on a vu aussi. Est-ce que c'est lié à des effets durables d'une inflation élevée qui a forgé les esprits et qui a entraîné des mécontentements politiques? Biden aux États-Unis a en partie perdu l'élection aussi. Enfin,
On parle de plus en plus en Europe, c'est quand même les licenciements. C'est plutôt l'emploi. C'est plutôt ce qu'on voit en Allemagne. C'est plutôt les opinions, justement, sur les intentions d'embauche ou sur les perspectives en matière d'emploi. C'est quand même beaucoup ça qui attire l'œil aujourd'hui.
C'est effectivement, de quel côté sera le mécontentement si effectivement l'activité tombe en contraction et qu'il y ait des licenciements. Et effectivement, on se contenterait à ce moment-là d'inflation en échange de garder son job. En plus, et j'abonde ce que disait Mabrouk là-dessus, c'est l'Allemagne en plus, il y a quelques semaines, c'est même un ministre allemand, je ne sais plus, c'est économie ou finance, qui disait en filigrane que l'Allemagne aurait besoin aussi d'une BCE qui baisserait les taux plus rapidement. Parce que cet énorme chantier qui va s'ouvrir et qui, je pense, va avoir lieu en Allemagne, dans les 24 prochains mois, va être peut-être gourmand en besoin de financement. On voit déjà des projets, là on en parle, ce projet hydrogène, 19 milliards, etc. Si l'Allemagne peut en plus se financer de manière moins chère sur les marchés, elle n'a pas trop de problèmes, je pense, à le faire.
Non,
mais si les conditions s'assouplissent encore, je pense qu'elle ne cracherait pas dessus. Donc c'est sûr que par rapport au challenge et au rapport Draghi qui devrait se mettre en place et ce qui va, je pense, être un impératif de mise en place de certaines parties de ces mesures-là, mieux vaut le faire effectivement qu'un environnement monétaire plutôt accommodant, exactement ce qu'a fait par exemple Biden, le plan infrastructure ou autre, c'était avant que les taux ne montent plein pot et on a pu s'endetter facilement d'abord Covid et puis ensuite 2021, avant que l'argent ne coûte plus cher aux États-Unis. Donc ce serait le bon moment effectivement dans cette transition de projet européen qui va être nécessaire d'avoir une politique monétaire qui soit quand même plus accommodante que ce qu'elle est actuellement.
Il y a peut-être un tout petit point effectivement qu'Alex on a évoqué qui est hyper important pour peut-être comprendre la dichotomie notamment entre les États-Unis et la zone euro concernant justement cette dynamique d'inflation qui est similaire notamment sur la partie sous-jacente, c'est que Alexandre l'a bien souligné, on a quand même une problématique de demande en fait aux États-Unis.
Oui, et en fait, demande qui reste supérieure au potentiel. Oui, bien sûr.
Et qui justifierait pourquoi la Fed devrait peut-être encore continuer un petit peu à
ne pas baisser les taux.
Baisser,
on va ne pas y aller trop vite.
Oui, on va pas y aller trop vite parce que le marché a tendance à s'emballer.
Mais oui, mais le marché s'est ajusté là-dessus.
Oui, non, mais le marché.
J'ai bien compris que la Fed pas à 3% taux final.
La Fed va encore peut-être diminuer ses 50-50 pour décembre et puis on va s'arrêter là et on va voir. Côté BCE, effectivement, le problème qu'on a, c'est que la demande est insuffisante. Effectivement, on a sans doute des chocs d'offres qui sont derrière et qui justifient cette stabilité de l'inflation sous-jacente, donc des effets sur lesquels la BCE ne pourrait pas intervenir. Et on comprend pourquoi, finalement, Elisabeth Schnabel indique effectivement pourquoi il est urgent d'attendre en quelque sorte, parce qu'on a besoin de voir. Et en fait, cette thématique du besoin de voir relève tout simplement du fait que, en fait, c'est pas la demande qui drive l'inflation, c'est plutôt effectivement les contraintes d'offres, et cette contrainte d'offres du coup, mécaniquement, s'exerce sur l'inflation et empêche la BCE finalement de pouvoir agir.
Un point qui n'a pas été peut-être dit mais qui peut être pensé, c'est est-ce que même si les banques centrales sont indépendantes, est-ce que l'aspect politique peut rentrer en compte? C'est-à-dire que si la BCE adopte une politique souple avant que Trump n'arrive. Le risque, c'est que l'euro passe sous la parité et que du coup, on le disait, entre le point à 1,12, le point haut, le dernier point haut, et si on passe sous la parité, 10-11% de baisse,
ouais, c'est quasiment l'équivalent
de ce qui viendrait gommer les effets des taxes.
Ouais,
est-ce qu'il y a un raisonnement peut-être on attend encore un peu ou deux mois avant de laisser passer les
Et en même temps, faire ça dans la situation budgétaire que connaît la France, est-ce que ça ne serait pas perçu par certains comme un petit coup de pouce peut-être un peu trop facile, etc. Non, mais enfin, la question politique, elle se pose dans tous les sens de ce point de vue-là. Nathalie, je vous laisse réagir. Oui. Je veux bien qu'on parle de l'Allemagne aussi, effectivement, et de comment vous voyez les enjeux autour de la réforme du frein à l'endettement, au moins comment est-ce que vous voyez la conversation se mettre en place.
Oui. Alors, avant l'Allemagne, peut-être qu'un moyen pour Christine Lagarde de trouver un consensus au sein de son comité, ce serait de sortir la carte Trump et dire, ben voilà, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, ça va augmenter l'incertitude, les entreprises ne vont plus investir, les enquêtes se sont dégradées à cause de cette incertitude, les ménages, etc. Donc ça peut être une façon d'accompagner ce changement, peut-être de discours de...
Mais Trump, c'est une carte qui va dans le sens de plus de baisse de taux.
Voilà.
D'accord. Non, mais
je sais pas. Au bémol, tout à fait juste, du niveau de la parité. Ouais. Après, on peut se demander aussi si la BCE, finalement, si les marchés attendent des baisses de taux de la BCE et que quelques membres disent peut-être pas trop, mais si les taux longs allemands restent où ils sont, est-ce qu'on peut pas continuer à vivre comme ça? On l'avait vu avant la baisse de taux de juin. On avait vu tout au long pendant le printemps. Les indices PMI s'amélioraient et dans les raisons, c'était on attend les baisses de taux de la BCE. Après, sur l'Allemagne, alors c'est vrai que c'est Angela Merkel qui a dit qu'il faudrait peut-être revoir, c'est symbolique. Est-ce que pour autant...
Freiheit, c'est le nom de son livre, 700 pages, vous l'avez tous commandé pour Noël, j'imagine.
Oui,
ce sera à déguster sans fin.
Est-ce que pour autant ça va aller très vite? Franchement, je crois qu'on n'en sait pas. Il y a déjà la première épreuve de l'élection à passer, de voir ce qui va.
J'ai l'impression que vu en France, on a l'impression qu'on va faire sauter le coffre-fort allemand et que les Deutschmark vont, vont inonder l'Europe.
Ça paraît peu vraisemblable.
Et donc, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Mais oui, mais ils en parlent quand même.
Oui.
C'est l'enjeu de cette élection. La barre est haute, il faut les deux tiers, je crois, effectivement, pour modifier la règle constitutionnelle. Donc je comprends que la position d'un Friedrich Merz, par exemple, qui est prétendant et qui est pour l'instant en position d'être peut-être le futur chancelier, il est obligé d'en parler, et en même temps, il ne peut pas trop effrayer non plus, parce que, Angela Merkel le rappelle dans son livre, cette règle, elle est aussi destinée à protéger les générations futures. Et j'ai l'impression que dans la psyché allemande, ça reste quelque chose d'important.
Oui, bien sûr. Oui, ça reste quelque chose d'important. Effectivement, ce serait sans doute plus facile pour le centre droit de porter ce projet, mais ce sera certainement très, très compliqué malgré tout. Surtout, là c'est un peu tôt, surtout si la campagne électorale induit des dissensions qui iraient en s'élargissant comme à peu près.
Mais ça veut dire qu'il ne faut pas attendre un signal clair, puissant, dès le 23 février, dès qu'une coalition émergera des urnes en Allemagne.
Ouais. Non, mais peut-être que le signal viendra de Donald Trump, réalité.
Bon.
Parce que même autant Trump pourra aider Christine Lagarde, il pourra peut-être aider finalement l'Allemagne, mais par le canal, effectivement, qu'on attend le moins, c'est-à-dire en gros la dépense militaire. En gros, encore une fois, Trump peut dire écoutez, c'est très simple, vous vous débrouillez avec maintenant votre OTAN, nous, on peut continuer à vous aider à la seule condition que vous augmentez de manière tout à fait substantielle le poids des dépenses militaires dans votre budget. Bon, c'est une première phase, parce qu'effectivement, là, c'est pas tout à fait le même si l'Allemagne a beaucoup augmenté effectivement le poids de ses dépenses, ça peut être une première finalement approche pour aider quelque part l'Allemagne à dépenser davantage. Alors, protéger les générations futures. J'ai pas l'impression finalement que globalement les pays qui utilisent l'arme budgétaire, on va encore reprendre le cas des États-Unis, sont pas du tout en train de faire exactement, c'est-à-dire en gros de protéger les générations futures en générant finalement plus de croissance, en favorisant finalement. On connaît l'histoire.
Toute la discussion.
Et c'est une discussion d'ordre politique. En économie, on est tous d'accord sur le fait que
protéger le potentiel de croissance.
Sauf qu'on peut très vite retrouver les États-Unis sans que rien ne change avec un niveau de dette sur PIB qui serait à 120, 130, 135. Ça peut aller très vite et très facilement à ces niveaux-là sans avoir forcément non plus un Trump délirant, maximaliste,
même,
etc.
Même sans rien faire.
Voilà, même sans rien faire. Exactement. On se retrouve à 135.
La dérive naturelle des finances publiques fait que de façon...
Est-ce qu'on continue de protéger les générations futures avec ce type de niveau d'endettement?
Mais tout dépend de la manière dont vous dépensez, encore une fois. Et c'est là, justement, le génie de Biden, en quelque sorte. Hein. Ce qu'il a mis en place, c'est que, véritablement, c'est une préservation de la capacité des États-Unis à générer de la richesse pour le futur. Bon, encore une fois, tout est dans la méthode, bien évidemment.
Oui, oui.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même aujourd'hui un blocage quasiment intellectuel qu'on connaît depuis très longtemps vis-à-vis, effectivement, de l'utilisation de cette arme budgétaire. Je crois que le ratio dette sur PIB en Allemagne, il est de l'ordre de 60%. Ça fait rêver tout le monde. C'est pour ça que vous parliez, effectivement, de la France qui espère, effectivement, que le coffre-fort va exploser. Ça n'arrivera jamais, évidemment. Et donc, du coup, à un moment donné, si on ne le fait pas maintenant, si on ne protège pas maintenant notre capacité à produire en Europe, parce qu'il s'agit de ça, en fait, en réalité, ça va être très compliqué pour les générations futures. C'est là le paradoxe.
Bon, sur le cas de la France, là, qu'est-ce que... Bon, le spread, 90, le CAC... Enfin, déjà que les indices européens ont rendu un peu de performance, le CAC sous-performe même les pairs européens aujourd'hui.
C'est vrai que ce matin, il y a quand même un télescopage de deux facteurs. Hein. C'est la déclaration de Michel Barnier, alors qui pour moi, ce n'était pas une déclaration qui m'a mis sur le feu. C'est-à-dire qu'il avait déjà observé que depuis le début de la semaine, le spread commençait à se tendre. Et hier, à bon escient, il a dit, attention au risque.
La tempête.
Il voyait des marchés. Donc finalement, le marché a un peu rebondi là-dessus. Mais c'est déjà un momentum qui est initié depuis avant les déclarations de Barnier. Et au même moment, Isabelle Schnabel qui fait ce discours. Donc, sûr que si l'espoir un peu monétaire disparaît au moment où le spread se tend, c'est pas la meilleure équation. Après, toujours rappeler, bon, c'est pour le grand public, c'est quand même bien de le faire, la crise, la panique. Voilà, la panique, c'est 190 points de base en 2011. OAT Bund, là où l'Italie, c'était 500 points de base. Donc ça, c'est la panique. Et quand tout va bien, la France, le spread avec l'Allemagne, c'est 20, 30, 40, voilà, à peu près entre 2015 et avec des petites bosses. Donc 80 points de base, enfin 90, c'est très inconfortable. C'est pas encore la panique. Après, il y a l'aspect aussi, on parlait du CAC aussi, du rôle du CAC, enfin de l'impact que ça a sur le CAC. À un moment donné, je pense quand même, je trouve que c'est pas la panique justement. C'est-à-dire que le CAC, même si on le voyait à 6008, c'est quoi, 5% plus bas, c'est pas la fin du monde, ça fera un bon 15% depuis le sommet. Je pense pas qu'on soit sur une situation similaire à celle, par exemple, 2022, où là, il y avait un enchaînement d'obstacles absolument incroyables, la guerre en Ukraine, la Chine qui était toujours confinée à ce moment-là, et puis les banques centrales qui durcissaient à coup de 50 points de base, même 75 points de base à certaines réunions. Là, c'est de trouver effectivement un meilleur équilibre budgétaire, de trouver un meilleur équilibre en Europe, mais il y a aussi cette baisse de l'euro qui rend quand même les actifs européens plutôt sexy quand on regarde ça vu des États-Unis. Si on doit les payer en dollars, faire le change ensuite, déjà 10% de baisse, plus 8% de baisse de l'euro. À un moment donné, je pense qu'il y a des facteurs mécaniques en fait qui vont simplement faire que le CAC n'ira pas plus bas parce qu'avoir un indice avec des rendements de 3 ou 4%, là où les marchés américains, s'il n'y a pas de rotation qui s'opère, vous pouvez aller sur l'Europe générer ça. Je pense que les niveaux de l'euro en fait vont être un soutien on est pour les marchés européens, le MIB, le CAC et également le DAX. Donc je ne suis pas fondamentalement inquiet pour la situation marché, en tout cas partie action, à condition évidemment que la partie budgétaire ne dérape pas complètement. Mais aujourd'hui, pour terminer, la très très bonne nouvelle quand même, bon, déjà la Commission a validé ça, pour ça c'est un petit exemple, mais l'autre exemple pour les marchés, c'est l'Italie. Ça ne bouge pas d'un poil. On est à 130 points de base à peu près de spread BTP Bund. C'est grosso modo les niveaux les plus faibles qu'on ait depuis fin 2021, donc plus bas de 3 ans sur ce spread Italie.
L'écartement du spread France-Allemagne, il se fait dans un moment de rallye obligataire, hein, où les taux baissent.
C'est ça, et ils baissent depuis. Alors, ils baissent. On peut dire que c'est une détente, mais liée aux inquiétudes de Trump, liée à l'élection américaine. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça montre que l'Italie, malgré un endettement historique, dette PIB qui est bien plus élevé que la France.
Domino, quoi.
Voilà, il y a surtout l'impulsion qui a été donnée par Meloni sur l'aspect budgétaire, et ce qui montre qu'il y a quand même un historique de dette plus élevé. Le changement de trajectoire, l'inflexion de trajectoire suffit à rassurer le marché obligataire. Donc la France.
On n'est pas encore en train de jouer l'éclatement de la zone euro, quoi. On traite le cas français comme il le mérite.
Voilà,
mais il n'y a pas de velléité de se dire, parce que évidemment que si la France saute, tout saute, quoi. Donc il n'y a pas cette... Non mais...
On a l'impression que
c'est
de la main.
Un peu vite, mais...
On
sera tous d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas cette velléité dans le marché d'attaquer l'euro.
On a cette impression quand on voit le comportement de marché, les volatilités obligataires notamment.
Bon, d'accord avec ces observations?
Oui.
La France est un espèce de feuilleton, entre guillemets, qui dure, alors on peut prendre...
Depuis le dernier budget à l'équilibre, c'est ça? Oui, bah ça dure.
Oui, je pense qu'il n'y en a pas eu depuis très très longtemps, une quarantaine d'années, à part quelques accidents.
Je crois que sous les 3%, c'est 23 ans.
Ouais, mais bon, bref, tout ça pour dire effectivement... que l'incertitude politique, effectivement, ça paye, ça ne paye pas du tout, au contraire, ça sanctionne. Et c'est aussi, en fait, pour rebondir finalement sur la condition, sur la situation économique en France. Mais encore une fois, si vous mettez de l'incertitude, en gros, les entreprises vont pas investir. Vous mettez de l'incertitude budgétaire, les ménages vont plus dépenser.
Ça peut se corriger vite ou pas? Si on est dans un scénario où la France ne crache pas et qu'on trouve quelque chose, un compromis et un budget, est-ce que le choc de confiance négatif, d'incertitude qui se propage là depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, est-ce qu'il peut au moins en partie se renverser assez vite?
De quel point de vue? D'un point de vue marché, d'un point de vue macro? D'un point de vue marché, il peut se renverser, effectivement. On peut dire, oui, bon, on a conclu un accord, on a trouvé un budget, donc le spread peut commencer à se tasser. Va-t-il revenir sur les niveaux, effectivement, prêts, on va dire, des solutions? La réponse est non. Parce que la situation reste effectivement très fragile. Maintenant, d'un point de vue macro, encore une fois, le choc de confiance négatif, il est là en Europe, et en France particulièrement. Donc on va avoir effectivement des budgets qui vont être sous contrainte, mais pas seulement en 2025, mais des années plus tard.
Oui.
Et en fait, mais la difficulté, elle est là. Donc vous mettez effectivement une situation peu visible, d'un point de vue macroéconomique, ça ne va pas aider.
Mis bout à bout, quel est le profil de croissance qu'on a à ce stade pour la zone euro en 2025 en tête, Nathalie, entre le pouvoir d'achat, l'inflation qui baisse, les salaires réels qui montent, à l'inverse des budgets plutôt restrictifs ou moins accommodants, qu'est-ce que ça donne en termes de profil
en
de
tête,
croissance?
Entre les optimistes et les pessimistes, on est juste sous 1% ou juste au-dessus.
D'accord. Voilà. Mais ça veut dire un risque de récession. Non, mais ça veut dire, toute chose égale par ailleurs, un risque de récession qui reste quand même limité, marginal, minoritaire.
Pas de risque de récession. D'accord. Effectivement, il n'y a pas pour le moment, alors il faut se méfier, ça peut aller très vite, de crise constatée sur les marchés obligataires, mais ce qu'on constate quand même, on l'a vu dans la hiérarchie des spreads, c'est que les marchés félicitent plutôt les bons élèves récents, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, sont conscients, alors sur l'Italie, il y a à la fois des aspects techniques en rallye, on va chercher l'Italie parce que ça paye un peu plus.
Oui.
Mais malgré tout, l'Italie sait dégager des excédents primaires, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc effectivement, il y a cet élément en ce moment. Mais voilà, pour le moment, personne ne price une explosion.
Non,
une explosion,
on n'est pas revenu quand même dans les affres de la crise souveraine qu'on a vécue. Parlons de Trump. Alors moi, la séquence m'intéresse beaucoup. Là, notamment sur les tarifs, puisque tout commence par là. Non, mais c'est intéressant. Donc, il nomme Bessent. On a la petite douceur sucrée de la nomination de Bessent sur les marchés. L'adulte dans la pièce, il est là. Et puis, dès le lendemain, Trump nous dit Day One, ce sera déjà tarif 25% pour le Canada et le Mexique, qui sont peut-être les deux partenaires les plus imbriqués avec les États-Unis qu'on puisse trouver. Et puis, bien sûr, la Chine, un petit 10% pour commencer. Comment vous analysez le fait qu'il attaque assez fort sur des partenaires commerciaux dont on se demande ce qu'il pourrait obtenir de plus aujourd'hui, Canada et Mexique, et pourquoi commencer seulement avec un 10% sur la Chine quand il n'a pas arrêté de nous promettre un 60%?
Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump? Sans doute les 100 premiers jours. Ouais. Et vraisemblablement, il va vouloir marquer les esprits pendant les 100 premiers jours. D'accord. Donc là, on peut entrer dans une phase d'incertitude peut-être plus musclée que ce que tout le monde envisage. Alors, pas forcément avec des chiffres, avec un résultat final qui sera très spectaculaire, mais en tout cas des annonces, comme ce sera plus à travers X, anciennement Twitter, ce sera à travers son réseau social.
Mais le côté Fast and Furious, il a les marges de manœuvre politique pour, vous dites, il ne faut pas minorer le côté un peu, je vais aller vite et fort tout de suite, les 100 premiers jours.
D'autant plus que ces marges de manœuvre politique, elles ne sont peut-être pas si confortables que ça. Parce que certes, il a la majorité au Sénat, à la Chambre des représentants, mais déjà, la Chambre des représentants, sa majorité n'est pas énorme. Et puis surtout, parmi les élus républicains, il y a des gens qui ont réussi à gagner un État qui avait été gagné par Biden 4 ans auparavant, et qui se disent, il ne faut peut-être pas que j'aille trop loin si je veux conserver mon poste dans 2 ans, puisque les élus américains ont toujours les mid-term
Donc la carte MAGA, elle a deux faces, quoi. C'est-à-dire, ça peut être bien, mais attention, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus.
On va sans doute assister à une sorte de référendum en temps réel de l'influence de Trump au sein du Parti républicain, et il en est vraisemblablement conscient, puisque c'est un animal politique, bien évidemment.
Ouais.
Alexandre, sur les premiers pas de...
Oui, déjà, rebondir dessus, c'est vrai qu'il y a la carte Trump comme tête de gondole pour se faire élire, et après, il y a ceux qui penseront, dernier mandat de Trump, et à l'avenir d'art politique, si on veut être nos républicains dans 4 ans, peut-être adopter un programme qui soit plus raisonnable, un peu moins extrême que la carte Trump. Donc ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait ce double effet-là. Après, sur les taxes, le fait qu'il n'ait pas mentionné l'Europe, est-ce que il faut voir un signe moins négatif, est-ce que c'est un oubli, est-ce que... Bon, les marchés ont quand même réagi, hein, en Europe, on a bien vu que ça...
Oui, l'auto a bien réagi, oui.
A bien réagi. Mais, oui, c'est sûr que...
Ou est-ce que c'est pour taper plus fort en deuxième couche.
C'est l'aspect probablement bad cop et puis good cop, c'est-à-dire que c'est la méthode un peu classique. Même sur d'autres thèmes, on voit que des bruits commencent à circuler sur une nouvelle rencontre éventuelle entre Trump ou son équipe et Kim Jong-un. Donc, on a l'impression de revivre le mandat précédent, c'est-à-dire les mêmes méthodes, les mêmes approches, avec des résultats qu'on connaît ensuite. Donc, si c'est à peu près le même mode opératoire, ça a peut-être moins d'effet de sidération du marché, de surprise, parce qu'on connaît un peu le personnage. Après, c'est sûr que si c'est radical et qu'il va jusqu'au bout, il faut rappeler quelques chiffres, par exemple pour le Mexique ou le Canada. Canada, 77% des exports du Canada, c'est les US, et le Mexique, c'est plus de 80%. Donc c'est sûr que s'il met la barre là où il l'a mise, il y a un risque. Mais il me semble qu'il y a un risque qui va être sous-estimé et qui va peut-être faire que justement, c'est là que B7 va être efficace. Le dollar a beaucoup grimpé. On sait que l'économie, les grands groupes du S&P 500, deux tiers, trois quarts d'activité, se fait sur le sol américain. Donc c'est pas forcément un besoin export. Mais il y a quand même, on va dire, un bon quart qui se fait, d'activité qui se fait sur le moteur export. Le dollar actuellement, on voit déjà sur les indices que dans les nouvelles commandes d'export ou autres, ça commence à peser. Donc s'il tape très fort sur la Chine, très fort sur l'Europe, on va vendre à qui? Enfin, les États-Unis, les groupes exportateurs américains vont vendre à qui si ces zones entrent en récession? Donc c'est peut-être ça aussi qui va limiter un peu son champ d'action pour éviter que le dollar aille trop aussi à un moment donné, et du coup assouplir un peu le message pour que tout le monde arrive, que les États-Unis restent premiers, mais que les autres ne s'effondrent pas non plus complètement autour de lui. C'est peut-être ça qui va le côté un peu dollar fort, taux fort, coût de la dette aussi, et baissant, c'est ça qui a plu au marché. On a vu la petite réaction, une petite détente des taux et du dollar après sa nomination.
Il y a quand même un pouls de Trump, quoi. Enfin, il y a l'idée que Trump, l'attention que Donald Trump peut porter aux marchés financiers, notamment, je pense aux 60-40 des Américains, au Dow Jones, au 401K, enfin tout, ce sur quoi les Américains sont investis. Et comment souvent ces meetings, en demandant comment va votre 401K, quoi. Est-ce que vous êtes content? Mais il le faisait en 2016, il l'a fait encore cette année. L'attention qu'il porte au marché, c'est quand même, dans l'esprit de beaucoup d'investisseurs, l'idée qu'il y a un put, quoi. C'est-à-dire, il peut faire baisser le marché à un moment avec des tweets, des annonces un peu fortes, etc. Mais j'ai l'impression que tout de suite, en deuxième lecture, le marché va dire, non mais le Dow Jones, ça reste son KPI préféré. Il ne peut pas faire baisser le Dow Jones de 20%.
Oui, mais est-ce que le Dow Jones, là les marchés ont battu record sur record sous Biden parce que beaucoup d'expansionnisme budgétaire et autres, ça a soutenu l'activité. Il sait au Parlement que le marché qui a déjà fait 20-30% ligne droite a besoin à un moment donné de respirer aussi. Donc il se dit que si dans les premières semaines du mandat le marché est un peu stressé,
tant mieux.
Voilà,
oui.
c'est pas forcément
si ça doit baisser autant que ça baisse maintenant.
C'est pas forcément gênant, mais... il y a un autre élément, j'ai oublié lequel d'ailleurs, sur la question des valos. Oui, pardon, c'est sur l'aspect baissante, pardon. C'est que... non, j'ai oublié mon raisonnement.
Bon, plus tard. Non, mais en tout cas...
C'est revenu. C'est la question du Trump trade, qui a beaucoup lifté les marchés. Et le risque que nous pourrions avoir, finalement, c'est pas d'un marché qui corrige un peu plus volatile parce que l'économie américaine va mal. C'est l'idée que le marché s'est fait de ce mandat Trump qui pourrait être très radical, très extrême, et qui finalement serait peut-être plus modéré.
Plus raisonnable.
Et du coup, ça pourrait mécaniquement générer des prises de gains sur un marché avec une politique moins expansionniste et donc un point de soutien à l'activité économique.
En attendant, là, qu'est-ce que vous dites de la situation? Enfin, je veux dire, on peut pas se mettre contre le momentum des actions américaines qui sont en train d'agrandir l'écart avec le reste du monde de manière spectaculaire. On relèvera les compteurs en fin d'année, mais ce que je veux dire, la prime pour détenir des actions américaines n'a jamais été aussi importante aujourd'hui par rapport au reste du monde.
Pour autant, j'ai quand même l'impression qu'il y aura de la rotation dans peu de temps, parce que il y a quelque chose qui est un peu de statistique aussi, c'est-à-dire depuis combien de temps l'Europe n'a pas surperformé les marchés américains. Sur depuis 10 ans, il y a eu 2 années en fait, on a surperformé, et au max c'était 3% de surperf, je crois, 2017.
Et là, c'est la pire année de sous-performance.
Voilà, mais si vous regardez par contre la décennie d'avant, 2000-2010, 8 années sur 10, l'Europe a surperformé, et parfois de plus de 5-6-7%. Toute la période 2002, juste avant la crise des subprimes, on a surperformé. On a surperformé de mémoire pas en 2007, mais en 2008. Donc il y a eu 8 ans sur 10 entre 2000 et 2010 où l'Europe, le Stock 600, a surperformé le S&P 500. Donc c'est pas impossible. Et donc à un moment donné, c'est de la rotation qui s'opère. Moi je pense que statistiquement, forcément, ça a plus de chances d'arriver après un 25% d'écart de perf que non. Et s'il y a le plan Draghi, si la Chine fait un peu de stimulation, si chacun soutient un peu son économie, moi je vois plutôt ce plan-là. Soutien économie Chine, soutien économie Europe dans les 12-18 mois qui arrivent, et avec un euro qui est bas,
de soutenir
un peu.
rattrapage des actions.
Ça fait beaucoup de si, malheureusement.
Ouais, non, mais attends, l'écart sur les actions, quand même. Là, le CAC est à moins 5, le S&P est à plus 25. Bon, on verra.
Regarde juste le ratio de valorisation, le ratio de PE, S&P 500, Stoxx 600, c'est 61%. On n'avait jamais vu ça.
Oui, ben voilà.
Mais ça s'est écarté bizarrement parce qu'on était sur une espèce de moyenne, on va dire, à la louche de 15% entre 99 et 2017. Q1 2017, ça a commencé effectivement à dérailler. D'accord ? Donc, tous les ans, début d'année, c'est le moment de voir une inflexion sur le retour à la moyenne, qui ne s'est jamais produit par ailleurs. Et...
On refermera jamais l'écart.
Il y a même pas à un moment donné, il n'y a même pas le début d'une stabilisation, en fait. Donc, c'est ça qui est quand même assez terrifiant quand on regarde les courbes un peu trop longue période.
Sur la période octobre 20, sur 6 mois, ça peut durer sur 6 mois, quoi.
Même pas, je crois. Donc,
octobre
quand vous regardez...
22 et puis début 23, là, l'Europe surperforme quand même.
Dernier trimestre 22, effectivement, l'Europe surperforme. Ouais. Parce qu'on avait ce rattrapage, entre guillemets, mais on avait accumulé tellement de retard à cause du confinement. Non, confinement, on n'est pas sur des. On est sur des facteurs exogènes. C'est ça, en fait, qui est quand même dommageable. Et le point également qui est extrêmement important, c'est que Trump, effectivement, a remporté, ça a été commenté partout, le vote populaire. Ce qui entre en écho avec, finalement, cette espèce de 100 jours de pression maximale qu'il a, non pas de la part des marchés, etc., mais surtout de la société américaine qui a voté massivement, on va dire, pour lui. C'est un plébiscite. Et donc, il va, effectivement, taper, cogner, effectivement, sur ses partenaires commerciaux. Bon, la Chine et le Mexique, le Canada, finalement, c'est des ennemis faciles. L'Europe, les Américains, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais à la limite, on leur tapera dessus après.
En fait, c'est presque humiliant qu'ils ne nous aient pas ciblés pour Day One, quoi.
Exactement. Non, mais c'est presque ça, en fait.
La coalition, quoi.
Non, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils exportent? Des voitures allemandes. Non, mais c'est tout. Non, mais si on caricature, c'est à peu près ça. Mais en réalité, finalement, l'impact inflationniste que tout le monde décrit en disant tarif égale inflation, c'est pas tout à fait vrai, en réalité. Et c'est là où il faut un peu se calmer. Et c'est là où je rejoins effectivement ce que dit Alexandre, c'est qu'on a peut-être effectivement exagéré toute cette espèce d'impact démentiel que va engendrer les politiques macroéconomiques de Donald Trump. Inflation, pas sûr. Croissance, pas sûr. Explosion des déficits, pas sûr non plus.
Bah, tout dépend de ce qu'il fait. Enfin, où il met le curseur. S'il fait tout ce qui a été mis sur le papier pendant ces mois de campagne.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2020 quand il s'en est pris à la Chine? Les tarifs ont augmenté, les tarifs sont partis de 3% pour arriver à 20%. Ils sont allés graduellement. Ça a pris 2 ans. Donc là, effectivement, le 60%, c'est un chiffre, à mon avis, qui est sorti du chapeau et qui a effectivement, s'il arrive à faire déjà passer de 20 à 40, ce sera déjà miraculeux. Et en fait, il dira, mais j'ai remis tout le monde à la table des négociations pour pouvoir effectivement négocier.
Oui, bien sûr.
C'est la méthode Trump, c'est pas une surprise. Et a priori, ça devrait bien se passer.
Un Trump qui ne serait pas si reflationniste que ce qu'on a pu craindre à un certain moment, Nathalie? Vous y croyez?
Paradoxalement, le discours de la Banque Centrale Européenne de plusieurs membres, c'est pas tellement de mettre l'accent sur le risque inflationniste lié à l'inconnu Trump, mais plutôt sur les risques sur l'activité. Et ça s'est fait très très vite, finalement, cette bascule. Bon, les droits de douane, c'est inflationniste le premier mois.
Ouais. Et ensuite, c'est potentiellement
récessif. Donc ça aussi, c'est intéressant.
Et ça va cadrer Trump quand même, ça? Vous pensez qu'il y a des limites de la réalité économique, des marchés qui vont encadrer quand même les dimensions, les 3-4 dimensions clés de sa doctrine sur l'immigration, la régulation, etc.
Sur l'immigration, ce qu'il a évoqué pendant la campagne électorale, c'est tout simplement impossible.
Donc, j'entends bien.
Il va sans doute durcir les lois sur l'immigration, peut-être procéder à quelques expulsions, histoire de...
Des symboles, quoi.
Vraisemblablement symbolique. Enfin, virer tout le monde des États-Unis, ce n'est pas possible.
Non.
Et là, ce n'est pas possible pour l'économie américaine. Non. Et c'est à la fois récessionniste et inflationniste, en prime, donc là, sur les deux tableaux. Mais voilà, c'est quelque chose, ça, c'est de l'ordre du fantasme.
Sur le moteur de la dérégulation, ça peut être un moteur puissant, quand même, pour la croissance américaine, au moins à court terme.
Sûrement pour les actions, c'est ce qui est derrière beaucoup la hausse des actions, vraisemblablement. Après, là aussi, jusqu'à...
Mais ça génère de la croissance économique
En tout cas, ça fait plaisir aux chefs d'entreprise et aux actionnaires. Ouais. Je ne pense pas me tromper. Et aux investisseurs, donc, qui se disent que c'est toujours ça de prix. Après, on peut se poser des questions à plus long terme sur est-ce qu'il faut vraiment déréguler l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, la réglementer un peu plus et un peu plus y voir ce qui peut se passer. Mais je crois que le réflexe pavlovien quand on entend
des régulations,
encore une fois les investisseurs en actions ont plutôt tendance à apprécier.
Mais est-ce qu'il y a une réalité économique derrière les effets de la dérégulation se voient dans l'économie réelle à un certain stade?
Oui, ça se voit, parce qu'on a bien vu que Trump avait dérégulé le secteur effectivement des banques, des petites banques, lors de son premier mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça s'est bien vu en mars 2023, boum, on a une crise, mais ça a permis effectivement l'expansion de ce secteur. Donc on a effectivement, la dérégulation amène de l'expansion et amène effectivement ensuite des phases de contraction et de crise. Et là, c'est ce qui va se passer de nouveau. Alors sur un autre aspect, par exemple la partie énergétique, il a indiqué effectivement vouloir revenir sur toute la réglementation qui encadrait les activités de fracturation hydraulique, etc. Donc là aussi, ça va générer de l'investissement dans le secteur de l'énergie et le secteur industriel. Donc oui, ça va effectivement avoir un impact économique, et globalement la régulation, c'est toujours le même problème, c'est des allers-retours, et on va voir effectivement, ça va causer de la croissance et ensuite un peu moins.
Bon, il nous reste quelques secondes là, Alexandre, vos vues de marché là sur la fin d'année, là il reste, je vais pas compter, mais il reste un mois de bourse quoi, grosso modo.
Je vois pas trop de potentiel de baisser sur l'Europe. Quand même, quand on a l'Eurostoxx 50 ou le MIB, des indices, je vois plutôt ce qu'on a, le MIB italien par exemple, latéral, je pense que ça peut se poursuivre. Je vois pas de phase de rechute lourde ou autre. Donc, plutôt, on risque de s'ennuyer un peu dans des zones de range ou autre. Le CAC peut être un peu plus bas, 6008, mais je vois pas de gros risques en dessous. Et juste pour terminer sur la discussion d'avant, c'est que l'un des effets positifs que pourrait avoir cet aspect de dérégulation américain, on voit que le ministre des Finances ou de l'économie, je sais pas lequel, en fin de semaine dernière, allemand.
Oui, l'allemand.
Plutôt Laus, qui plaît. Alors, est-ce que ça rentre en compte, mais justement là-dessus en disant trop d'administratifs, trop de réglementations,
besoin d'avoir
un accès au capitaux. Donc c'est un peu comme l'OTAN à l'époque, c'est-à-dire de dire Trump, il dit vous payez pas assez, on a payé plus. Trump dérégule, l'Europe va peut-être suivre pour ne pas être trop à la traîne. Donc ça peut être un effet positif sur la lourdeur administrative européenne, ça peut peut-être l'alléger un petit peu.
C'est prendre des risques. De la value aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui est très intéressant. Donc et peut-être pas un faux départ pour une fois. Donc
On verra. Alexandre a cité les exemples effectivement de la période de pré-grande crise financière, post-bulle.com et pré-grande crise financière, entre les deux. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Mabrouk Chetouane, Natixis CM, Alexandre Baradez, IG.